Alors ce soir, nous allons continuer notre étude de l'épître de Paul aux Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens. Nous avançons, nous sommes rendus au chapitre 9. Juste rappeler comment on a terminé la réunion la dernière fois. On parlait dans le chapitre 8 de la position justement de tous ces intellectuels de Corinthe qui défendaient leurs droits et leur liberté à tout prix, même si... Cela pouvait nuire à ceux que l'on considérait comme des faibles, croyant encore plus faibles dans leur foi et dans leur compréhension. Et nous avons conclu en disant qu'il faut parfois accepter de ne pas user de notre liberté. Nous sommes libres, mais des fois, il faut accepter de ne pas user de notre liberté si nous croyons que cela peut nuire à un croyant plus faible, si nous croyons que cela peut scandaliser la foi de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas que nous sommes faibles nous-mêmes en faisant ça, mais nous sommes préoccupés par l'avancement de l'œuvre de Dieu, l'avancement de tous les enfants de Dieu. Amen. Donc, la liberté, c'est bien, mais on ne peut pas la brandir à tout bout de champ. Des fois, on se rabaisse et puis on dit, mais pour le bien de l'autre, je vais le faire. Et dans le chapitre 9, justement, Paul illustre cela, illustre comment on peut se passer de sa liberté, comment on peut se priver, passer par-dessus ses droits, les droits que l'on a, parce qu'on ne veut pas nuire à l'Église, on ne veut pas nuire aux frères et aux sœurs, on ne veut pas nuire à ceux qui ne comprennent pas encore des choses. Paul parle donc de lui-même et de sa propre situation, du fait qu'il s'est privé de sa propre liberté. Mais il commence en disant, « Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Et c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. » Il dit, est-ce que moi je ne suis pas libre? J'ai aussi la même liberté dont vous vous prévalez. Vous qui avez la connaissance, vous qui croyez qu'il savait tout, etc. J'ai la même liberté. Je suis aussi libre de revendiquer mes droits comme tout autre croyant. Il commence par la peau pour mettre la table. Il dit non. Moi aussi, je peux me servir de ma liberté, je peux me servir de tous mes droits exactement comme n'importe quel serviteur peut éprouver les mêmes besoins qu'un croyant éprouve. La même façon qu'un pasteur, tout en étant pasteur, a des besoins qui sont sans doute les mêmes que ceux des membres de l'Église. Il a des besoins qu'il doit rencontrer au même titre que les membres de l'Église, même si quelque part il a des responsabilités qui sont liées à la charge pastoral qu'il a. Donc, ce que ici on veut dire simplement, c'est que quelquefois, justement, on aura tendance à demander beaucoup au pasteur en disant, mais lui, il a été appelé, lui, il est... Non, non, il n'est pas un ange. C'est un être humain comme vous, comme moi. Amen. Il n'est pas un ange. Il vit sur cette terre des hommes et il a les mêmes besoins que nous avons. Amen. C'est sûr qu'il a sa part de responsabilité. Ça, on ne le nie pas, notamment en ce qui concerne le comportement exemplaire qu'il doit avoir. Le reste, nous sommes tous enfants de Dieu appelés à respecter les mêmes normes. Paul veut aussi réaffirmer, parce que dans le contexte de l'église de Corinthe, ça veut dire qu'il y a tout le temps des gens qui sont en train de contester son apostolat. Ah, lui n'était pas là avec les 12. C'est ça, il n'était pas là avec les 12, donc il veut chaque fois, vous vous rendez compte de toutes les épîtres qu'on a étudiées, il réaffirme toujours son autorité apostolique. Il la réaffirme toujours. Il a des raisons de l'affirmer parce qu'il dit, mais moi j'ai vu Jésus, il m'est apparu sur la route de Damas, c'est lui, c'est pas un esprit qui m'est apparu, c'est Jésus qui m'est apparu et c'est Jésus qui m'a parlé sur la route de Damas. Pas seulement une fois, on peut lire dans Actes des Apôtres, il n'a pas parlé qu'une fois, il lui a parlé aussi d'autres fois. Dans Actes 9, verset 3 à 5, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » C'est Jésus qui lui parlait, il l'a vu personnellement. Acte 18, un peu plus tard, pendant qu'il est déjà dans le ministère, dans Acte 18, le verset 9, le Seigneur encore dit à Paul en vision, pendant la nuit, il dit, ne crains point, mais parle et ne te tais pas. Même s'il y a des gens qui veulent te faire des problèmes, etc., n'aie pas peur. Même s'il y a des gens qui veulent que tu ne parles pas de ma part, n'aie pas peur, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Jésus lui confirme qu'il est avec lui, encore une fois, il dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Dans Acte 22, même chose, il lui apparaît encore une fois, lorsqu'il est sur le retour, sur le chemin de retour vers Jérusalem. Acte 22, verset 17, dit, de retour à Jérusalem. Là, il est en train de faire son discours, donc devant le tribun, là. Donc, de retour à Jérusalem, quand il a fini son discours, de retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Et je dis, Seigneur, ils savent même que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi et que lorsque l'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, gardant les vêtements, etc. Et au verset 21, il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Donc, il affirme son autorité parce qu'il ne s'est pas déclaré apôtre de lui-même. C'est le Seigneur qui l'a appelé réellement. Parce qu'il a continué à lui parler, à le guider, même à l'éclairer. Mais aussi, il a des raisons pour dire qu'il est apôtre. Il dit, n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Vous, l'église de Corinthe, que j'ai implantée, vous êtes mon œuvre. Vous êtes le résultat de mon apostolat. Vous êtes le résultat de l'efficacité du ministère que j'ai. Vous êtes la preuve, vous êtes l'évidence même que c'est moi qui, le Seigneur m'a utilisé pour implanter cette église. Donc, là, il réaffirme vraiment son autorité d'apôtre. Et donc, pour que, par la suite, les gens puissent se taire, mais ils ne se tairont certainement pas. Ils vont continuer à attaquer, mais lui, chaque fois qu'il aura l'occasion, il le dira. Amen. Il dit, c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Comme je disais au début, il était accusé, même dans l'église de Jérusalem, mais il s'impose comme apôtre, mais il ne l'est pas, il n'était pas avec Jésus. Donc, il donne sa défense pour ceux qui l'accusent. Et n'oubliez pas toujours que cette épître a été écrite encore une fois dans le cadre des questions qu'on lui posait, sûrement dans les lettres. Malheureusement, on n'a jamais eu ces lettres que les gens avaient envoyées à Paul. Pour savoir quelles étaient les questions, quels étaient les commentaires, quelles étaient les accusations qu'il portait contre lui. Mais l'important, c'est que nous avons sa réponse et on peut donc comprendre ce qui s'est passé à l'époque. Nous lisons les versets 4 à 6. Il dit, n'avons-nous pas, maintenant qu'il a fait sa défense, il dit, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et Céphas, Pierre? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Certainement qu'il répond encore à un autre commentaire qu'il a entendu. Cette fois-ci, il répond en énumérant les privilèges qu'il croit être ceux d'un serviteur auxquels un serviteur peut prétendre. Il dit, mais étant serviteur de Dieu, étant l'apôtre de l'Église, est-ce que nous n'avons pas le droit de manger et de boire? C'est ce que je disais au début. Il est serviteur de Dieu, mais il a les mêmes besoins élémentaires comme tout le monde. Nous avons le droit de boire et de manger. Or, pour boire et pour manger, ben, ça prend de l'argent. Hein, en fait, sous-entendu, c'est ça. N'avons-nous pas le droit de boire ni de manger? N'avons-nous pas le droit de mener une vie normale, comme tout être humain? Juste, mais en réalité, quand il pose ces questions, il n'y donne pas tout de suite la réponse, parce que la réponse est évidente d'elle-même. N'avons-nous pas le droit, c'est clair que vous avez le droit de manger et de boire. Il continue, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Ce n'est pas qu'il veut dire ici que les apôtres ont le droit de se marier. Oui, ils avaient le droit de se marier parce que les autres étaient mariés. Même Céphas était marié, même les frères du Seigneur qui occupaient une place de choix comme Jacques dans l'église de Jérusalem. Mais c'est ça, ils étaient mariés. Il dit, n'avons-nous pas le droit d'avoir avec nous, de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Supposez qu'il ait une femme et qu'il voyage. Est-ce qu'il n'a pas le droit de voyager avec sa femme pour que et lui et sa femme puissent jouir et bénéficier des mêmes considérations? Des mêmes considérations. On ne veut pas dire nous allons traiter monsieur, c'est lui le serviteur de Dieu, la femme, on la laisse dans un coin. Non. Il pose une question et c'est évident que le serviteur de Dieu et sa femme doivent être considérés, doivent jouir de la même considération. Amen. N'avons-nous pas donc ce droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur? Et on peut se demander pourquoi il a mis ses faces Pierre de côté. Alors, encore une fois, c'est des suppositions. On pense peut-être que dans les gens qui s'opposaient à Pierre, c'est parce qu'ils prenaient parti plus davantage pour Pierre. Ils s'opposaient à Paul, ils prenaient parti pour Pierre.
C'est peut-être pour ça qu'il le cite nommément. Il n'y avait pas de raison qu'il le sorte du lot des autres apôtres et le mette à part. Donc c'est peut-être que dans les gens qui lui avaient écrit, il y en a qui disaient « Non, nous reconnaissons le ministère de Pierre, le tien on ne le connaît pas. » C'est pour ça qu'il le met c'est juste en exergue ici. Donc, ou bien est-ce moi, seul et Barnabas, qui n'avons pas le droit de ne pas travailler ? Donc, en réalité, ils ont aussi le droit. Et lui et Barnabas, sans doute qu'eux avaient choisi de travailler, nous allons voir pourquoi, ils avaient aussi le droit de ne pas travailler, de s'occuper de l'œuvre du Seigneur. Ils avaient le droit de le faire. Et pourquoi les gens, justement, sont en train de dire du mal de eux ? Donc, ils ont le droit de recevoir le soutien financier quand ils voyagent avec leurs épouses. Ils ont le droit d'être payés, de ne pas travailler, comme les autres, et de se consacrer à l'œuvre de Dieu. C'est vrai. C'était bien de le faire parce que dans la culture grecque, nous avons dit, c'était plus des intellectuels, des philosophes qui, eux, minimisaient, trouvaient que le travail manuel était avilissant. Donc, c'était avilissant, c'était bas, un travail manuel. Mais eux, ils font ce travail manuel. Ils font ce travail pour subvenir à leurs propres besoins. Donc, pour eux aussi, recevoir l'argent pour avoir enseigné la parole de Dieu était bon, oui ou non? Oui, c'était bon. Mais la réalité est la suivante. Paul est de souche de culture juive, éduqué dans cette culture juive. Et dans la culture juive, les rabbins devaient travailler. Les rabbins devaient travailler pour subvenir à leurs besoins. Et donc, lui, étant de cette culture, il a voulu le faire justement pour éviter tous ces problèmes qu'il rencontrait, les gens qui le jugeaient, les gens qui le critiquaient. Il a voulu travailler de ses propres mains. Parce que pour les rabbins à l'époque, semble-t-il, la parole, donc ceux qui avoir enseigné la parole, être payé pour avoir enseigné la parole, était, semble-t-il, considéré comme péché. C'était mal vu à l'époque chez les rabbins. C'était mal vu. Ce n'est pas vrai que Dieu dit ça, que c'est une mauvaise chose d'être payé, d'être rémunéré. Et nous allons le voir parce que c'est étayé par la parole de Dieu d'être rémunéré quand on travaille. Donc, il est donc possible, dit Paul, qu'il ait choisi de ne pas tirer profit de ses droits à cause de son héritage juif. Le fait qu'il savait que chez les rabbins, c'était comme ça, chez les rabbins, ils devaient travailler pour subvenir à leurs besoins. Et donc, il pouvait se servir de cet héritage juif pour justifier sa position. Pourquoi lui a décidé de travailler alors qu'il avait le droit aussi de ne pas travailler comme les autres? Et aussi, il peut le justifier parce qu'il voulait mettre un terme, sans doute, à toutes ces attaques auxquelles il était l'objet. Il était l'objet d'attaques absolument sans un fondement aucun. Mais vous notez qu'il ne l'a pas fait avec toutes les églises. Ce qu'il est en train de dire ici avec l'église de Corinthe, Paul ne l'a pas fait ainsi. D'autres églises lui ont payé et il a accepté d'être payé. Il le fait à Corinthe, vous comprenez la raison, parce qu'à Corinthe, c'était une situation particulière, parce que les gens contestaient, les gens ne reconnaissaient pas son apostolat, les gens trouvaient qu'il n'avait pas le droit d'être payé, etc. Donc, il ne l'a pas fait avec toutes les églises. S'il l'avait fait partout, dans toutes les églises où il allait, mais là, il aurait passé un autre type de message. Mais il ne l'a pas fait avec toutes les églises. Il y a quelques textes qui nous en parlent. Actes des Apôtres 20. Actes des Apôtres, chapitre 20. Il dit ceci, « Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. » C'est lui qui parle. 31 à 35, acte 20. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Il a travaillé, lui, il était fabricant de tentes. Donc, mes mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Il dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Là, il justifie pourquoi lui travaillait. Donc, nous lisons aussi un autre texte dans 2 Corinthiens, chapitre 11. Déjà là, dans Actes des Apôtres, nous venons de voir une première leçon qu'il veut donner, c'est que son ministère à lui n'était pas dicté par l'amour de l'argent, contrairement à ce que les gens l'accusaient. Là. Il n'était pas poussé, il dit, ce n'est pas l'argent qu'il cherchait en faisant le ministère. Il l'a prouvé en travaillant de ses propres mains. 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 7, il dit, 11, 10, 11, verset 7, il dit, ou bien, Ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même afin que vous soyez élevés quand je vous ai annoncé gratuitement l'évangile? J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Ça, ça explique ce que je venais de dire. Pendant que je vous servais, vous, pendant que je vous prêchais, vous, ici à Corinthe, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir, vous. Parce que vous, vous ne croyez pas à la nécessité de subvenir à mes besoins. Il y avait tellement de discussions autour de ça. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. C'est toujours triste. C'est ce que je parlais avec quelques personnes récemment. C'est triste que nous parlions de l'attitude, particulièrement des francophones, des peuples d'origine latine, avec la philosophie, le développement intellectuel que les gens ont. Le sens de supporter l'œuvre de Dieu, de supporter les servitudes de Dieu, a été tellement peu développé. Moi, je me demande ici si ce n'est pas dû à l'Église catholique qui a favorisé beaucoup de tout pourvoir dans les églises. Et ayant grandi, la plupart d'entre nous ayant grandi dans ces milieux, on n'a jamais compris l'importance de supporter l'œuvre de Dieu. Tout venait de Rome. Prêtres, voitures, robes, tout venait de Rome. Les voyages, tout était supporté par Rome. Ça a marqué les gens. Si bien que quand on parle de donner pour l'œuvre de Dieu, ça bouscule un peu les gens. Donc, il dit, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne, car les frères venus d'ailleurs de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé d'être à votre charge et je m'en garderai. Ça, bon, donc, je vais arrêter là. Je peux aller dans le chapitre 12 aussi, chapitre 12 de 2 Corinthiens. Verset 14, il y a un autre passage avec lequel nous allons terminer, qui nous montre l'attitude désintéressée de Paul. Il n'était pas poussé par l'amour de l'argent, il n'était pas lié par ça. Il dit, voici, verset 14, pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne serai point à votre charge. Ils ne veulent pas être fiers d'eux-mêmes, ces gens. Hein? Car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même que je cherche. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vos âmes en vous aimant davantage, serais-je moins aimé de vous. Il ne cherche pas à tirer profit du ministère qu'il fait au niveau de ce peuple. Et donc, pour conclure cette première partie ici, je me suis dit que le fait de ne pas réclamer son dû, le fait qu'il ne réclamait pas son dû, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas droit, entendons-nous. Il y avait droit, mais lui, dans sa liberté, décide de se priver pour qu'il y ait la paix dans l'Église, parce que les gens n'avaient pas encore compris l'importance de supporter l'œuvre de Dieu, ou les gens n'avaient pas encore compris que lui était apôtre au même titre que les autres. Donc, pour qu'il y ait la paix, pour acheter la paix dans l'Église, il dit, je m'en prive. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas droit, ou qu'il ne fallait pas le reconnaître à d'autres serviteurs qui servaient à l'église de Corinthe. Ce n'est pas ça. Ce n'était pas non plus une raison pour dire qu'il fallait négliger les responsabilités des Corinthiens. Il n'est pas en train de leur donner raison. Il explique par rapport à sa situation, mais il n'est pas en train de leur donner raison. Il dit, vous ne pouvez négliger vos responsabilités envers le ministère. Le peuple a la responsabilité envers le ministère, comme les ministres de l'Évangile ont une responsabilité envers Dieu et envers le peuple. Donc, il ne nie pas ici le droit de bénéficier de ce à quoi les autres donc ont droit. Le verset 7, je vais lire jusqu'au verset 14, ça va être un peu long. Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Là, évidemment, il commence à justifier pourquoi il faut un salaire à un prédicateur, pourquoi il faut un salaire aux serviteurs de Dieu. Il dit, mais qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses, je l'ai dit, ces choses que je dis, n'existent-elles que dans les usages des hommes? La réponse est non. La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parlait-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Celui qui foule le grain, foulé avec espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Beaucoup de versets, mais il donne beaucoup d'exemples pour faire comprendre la portée de son raisonnement. Donc là, il est en train de justifier pourquoi il faut un salaire aux prédicateurs, aux serviteurs de Dieu, à l'apôtre, etc. Pourquoi il faut supporter ces hommes. C'est ça leur travail. Hein? Qui va dans l'armée à ses propres frais? Non, personne. Tu vas te battre pour un pays, ben c'est ce pays qui te supporte. Qui est-ce qui plante une vigne et qui n'en mange pas le fruit? Ce serait beau ça. Tu plantes une vigne, mais tu n'as pas le droit d'en manger les fruits. Attention. Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Des choses qui parlent. Ces choses, je le dis, est-ce qu'elles existent seulement dans les usages des hommes? Est-ce que puisque je donne des exemples dans la vie de tous les jours, est-ce que c'est seulement là que ça compte? Non. Même dans la loi de Moïse, il dit, la loi le dit aussi. Il dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Pendant qu'il est en train d'écraser le grain, il est en train de tourner, attacher, tu ne vas pas mettre un museau pour qu'il ne mange pas. Là, il a le droit de manger un peu, il ne va pas tout finir. La loi le disait aussi, la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Il dit, Dieu se met-il en peine des bœufs? Est-ce que ça a été dit par rapport aux bœufs ou vous pensez que ça a été dit par rapport à nous, les humains? Par rapport à nous, entre ceux qui travaillent dans l'œuvre de Dieu, etc., et le peuple que l'on sert. C'est pour eux que ça a été écrit, c'est pas pour les bœufs. Sans vouloir dire que Dieu ne s'intéresse pas aux bœufs. Oui, il se préoccupe aussi des bœufs. Et puis les bœufs aussi ont le droit de manger un peu de ce grain. Amen. Amen. Donc, à travers plusieurs exemples, ici, Paul montre que ces revendications ne sont pas déraisonnables. C'est vraiment raisonnable. C'est même logique. C'est de la pure logique humaine, d'abord, et qui est venue être renforcée par ce que disait la loi à l'époque. Et qu'il est donc convenable pour les ouvriers de l'Évangile de recevoir un salaire des églises qu'ils servent. Pas compter sur le salaire qui va venir d'autres églises, mais des églises qui servent. Quand le Seigneur envoie un serviteur dans une église, je l'ai dit en arrivant à l'Assomption, le Seigneur sait que cette église est en mesure de supporter ce serviteur. Amen. Il ne peut pas le supporter selon ce que le serviteur veut, mais il va le supporter selon les moyens. Mais Dieu a toujours les moyens qu'il faut dans l'église. Mais il faut que les gens acceptent de se libérer de cet argent pour le mettre au service de l'œuvre. Ce n'est pas seulement le salaire de l'ouvrier de l'évangile, c'est aussi le loyer du bâtiment. Des églises qui ont des loyers impayés des 6 mois. Je viens des États-Unis il n'y a pas longtemps. Je dis, pasteur, j'étais malade. C'est le pasteur de l'église qui me parle. Pendant que j'étais hospitalisé, tout est tombé. On ne payait plus de loyer, on ne payait plus rien. Je me retrouve avec des dettes sur le loyer. Et pourtant, l'église n'a pas fermé un seul jour. Les gens continuent à venir. On ne fait rien, pas parce que le pasteur est là. On le fait pour le Seigneur. On le fait pour le Seigneur. Donc, ce n'est pas déraisonnable ce que Paul est en train de dire. Il dit, l'ouvrier de l'évangile doit recevoir un salaire des églises qu'il serve. Il serve. Il dit, son point de vue donc trouve justification dans la loi de Moïse. Évidemment, c'est un texte qui est cité de Deutéronome, chapitre 25, le verset 4, vous pouvez lire. Et donc, si Dieu se préoccupe des animaux, ben, a fortiori, s'occupe-t-il de ses serviteurs? C'est évident. Et le prédicateur, comme il dit au verset 11, il dit, le prédicateur, si nous avons semé parmi vous, le travail qu'un prédicateur fait, c'est une semence. Il est en train de semer. Si nous avons semé les biens spirituels, les enseignements, les prières, les réunions, les conseils, toutes ces choses qui se font, c'est une semence. On sème, on travaille dans le champ dans lequel le Seigneur nous a mis. Si j'ai semé des biens spirituels, est-ce que c'est une grosse affaire? Si nous moissonnons vos biens temporels, vos biens matériels, si nous pouvons jouir de l'argent venant de vous, la réponse est claire là aussi. La réponse est claire. Donc le prédicateur sème des biens spirituels, il doit récolter le matériel. Quand je dis le matériel, c'est de quoi boire, de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi se déplacer, avoir un toit. Hein? Et vous, il ne passe pas la nuit dans l'auto ou dans les rues, etc. C'est dans l'église. C'est important qu'on prenne conscience de ces choses. Et au verset 12, il commence par un « si d'autres ». « Si d'autres jouissent de ce droit sur vous ». Paul suppose donc qu'il y a d'autres serviteurs, ou il a eu vent qu'il y a d'autres serviteurs, sans doute tous ceux qui sont en train de tirer, de le combattre, etc., ou les faux docteurs qui passent par là. Il suppose que d'autres serviteurs jouissaient de cet avantage. Si nous qui avons fait ce travail, nous ne pouvons pas en jouir, comment pouvez-vous donner ça aux autres? N'est-ce pas à nous qui faisons le travail de jouir de ce fruit? C'est plutôt au véritable père spirituel de bénéficier de ces fruits. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout en disant cela, Paul garde le cap. Ce n'est pas qu'il est orgueilleux. Encore une fois, c'est la préoccupation de garder la paix dans l'Église. Il dit, si d'autres jouissent de ce droit, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais, dit-il, nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons. Nous acceptons de supporter cette situation afin de ne pas créer d'obstacles à l'Évangile de Christ. Savez-vous que une église peut se vider à cause d'un problème comme celui-là? Une église peut se vider parce que le pasteur, à un moment donné, dit, « Écoutez, l'église, faites quelque chose. J'ai quand même besoin de vivre. Je ne suis pas un ange, comme je disais au début. Je suis un être humain qui a des besoins. Je dois me nourrir, je dois me vêtir, je dois, etc. Comme vous, vous avez ces besoins, j'en ai aussi. » Donc Paul dit la même chose, il dit, « Mais afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ, se priver de ses droits, se priver de certaines de ses libertés, pour que la paix règne dans l'Église. » Ce n'est pas juste en matière d'argent, c'est dans beaucoup d'autres choses. Il y a des choses pour lesquelles on pourrait se justifier. Il n'y a pas besoin de se justifier. On sent que les gens ne comprennent pas encore la chose. On dit, Seigneur, le temps viendra. Je souffre, je supporte ces choses. Amen. C'est ce que Paul est en train de dire. Mais vous voyez qu'il n'a pas dit, maintenant que je vous ai enseigné, maintenant à partir de maintenant, je veux un salaire. Non, ce n'est pas ça. Il dit, nous allons continuer à souffrir ces choses afin de ne pas créer d'obstacles à l'Évangile. Mais entre-temps, il donne l'enseignement. Entre-temps, il donne l'enseignement. Amen. Alors, donc, il n'a pas usé de ce droit et pour que ce ne soit pas, il lui-même ne soit pas un frein donc à l'Évangile. Mais je vous dis que ce n'est pas toujours bon d'agir comme ça parce qu'on n'aide pas non plus l'Église de Dieu. On n'enseigne pas l'Église à prendre ses responsabilités. On n'enseigne pas aux enfants de Dieu que donner, c'est une bénédiction. Amen. J'ai toujours dit que c'est une sœur qui nous disait ça. Réjouissez-vous, réjouissons-nous. Moi aussi, je me mets dans le camp. Réjouissons-nous d'être dans le camp de ceux qui donnent. Vous ne savez pas ce que c'est d'être dans le camp de ceux qui attendent de recevoir. Vous ne savez pas ce que c'est. Pas toujours évident, hein? Pas toujours évident. Amen. Réjouissons-nous d'être dans le camp de ceux qui donnent. Il faut s'en réjouir. Parce qu'il y a des bénédictions qui accompagnent la chose. Amen. Le verset 13 et 14. 13-14, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Amen. En réalité, il ne fait que rappeler des choses qu'ils savent. Des gens qui connaissaient l'histoire de l'Ancien Testament, ils savent combien les sacrificateurs de l'Ancien Testament étaient soutenus par les dîmes, plusieurs sortes de dîmes qu'il y avait. Il était supporté aussi par des dons financiers que l'on apportait dans l'œuvre de Dieu. Il y a des textes, si vous voulez, que vous pourrez les lire dans Lévitique, dans Nombre. On pourrait les lire, mais pas beaucoup de temps parce qu'on pourra peut-être prier à la fin. Donc, les sacrificateurs dans l'Ancien Testament étaient soutenus par les dîmes, par les dons, et même les dons de ceux qui, en faveur de ceux qui annoncent l'Évangile. Ceux qui annoncent l'Évangile doivent vivre. Ils doivent vivre de l'Évangile, c'est clairement dit. Ils doivent vivre de l'Évangile. Si, et moi, je me dis, il y a quelque temps, il y a un serviteur de Dieu qui est passé ici. Il a dit quelque chose comme ceci. Je n'ai pas les termes exacts, mais il disait, je travaillais encore à la banque. Et donc, j'avais moins de temps que maintenant à consacrer à mon travail en rapport avec l'Église. Il disait, vous savez, en laissant votre pasteur continuer à travailler, vous le poussez à vous donner des miettes. Des miettes. Il y a des gens qui doivent s'en rappeler, voilà. Il y en a qui s'en rappellent. Vous le poussez à vous donner des miettes. Ça veut dire qu'il n'a pas toute l'énergie consacrée à son travail. Il vient fatigué. Il dit, bon, il faut que je fasse, parce que qu'est-ce que je vais dire ce soir? Alors, des fois, c'est à la va-vite que tu fais des choses et tu n'es pas concentré. Donc, c'est vraiment important de dire que ceux qui travaillent à l'Évangile devraient se consacrer qu'à l'Évangile. Devraient le faire. Et chaque église devrait veiller à ça. Devrait veiller à ça, si petite soit-elle. Parce que j'en connais des églises de 7, 8, 10, 15 personnes, mais qui font que Ils ont le pasteur qui est là pour eux, pour prier pour eux, prier avec eux, les enseigner, etc. Donc, ils font le nécessaire. Amen. Et Dieu bénit. Et je ne pense pas que les pasteurs sont toujours là. Ça peut, il peut y avoir, je ne nie pas. Ils sont toujours là pour chercher le gros lot là-dedans. Non. Quand l'église est petite, que les moyens sont limités, on vit avec le peu qu'il y a. Amen. On vit avec. On grandit avec l'église comme partout ailleurs. Comme un conseiller financier grandit avec ses clients. Il y a une dame qui me disait, ça, elle dit, j'ai commencé avec beaucoup de dames et elles n'avaient rien au début, mais je les ai conseillées. Mais aujourd'hui, la plupart de mes clientes ont vieilli, ont des 60, 70 ans. Tous sont devenus des millionnaires, moi avec, me dit. Ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre, pas vivoter, j'ai noté ça, pas vivoter. C'est un ordre du Seigneur, c'est un ordre du Seigneur, il n'y a aucun doute à cela. Et le Seigneur le dit, il y a des textes, on va lire rapidement dans Matthieu, Matthieu chapitre 10, verset 9 à 10. Il dit, mais un peu plus haut, il dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton. Pourquoi? Parce que l'ouvrier mérite sa nourriture. Si vous allez dans le même texte, dans Luc chapitre 10, c'est le même texte dans le fond. Lui, il dit que l'ouvrier mérite son salaire. Alors, il ne faut pas qu'on se serve de ce verset pour dire ah, « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Attendez, l'ouvrier, ça n'enlève pas le fait que l'ouvrier mérite son salaire. On dit « Vous, vous allez faire des longs kilomètres. Je vous envoie aller partout, annoncer l'évangile, guérissez les malades. Vous marchez à pied. Donc, vous allez faire beaucoup de kilomètres à pied. Ne vous encombrez pas de beaucoup de choses. Partout où vous passez, vous venez au nom du roi des rois, les gens vont vous accueillir, ils doivent vous supporter. Ils doivent vous supporter. Vous lisez ça dans Luc 10, les 7 premiers versets. L'ouvrier mérite son salaire. Et moi, c'est moi maintenant qui tire une leçon ici. Alors qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions. J'ai apporté un message sur l'actualité de la dîme. Mais il y a tellement de commentaires là-dessus. J'ai même eu un commentaire sur le site, mais finalement j'ai arrêté parce que je ne voulais plus continuer à en avoir. Il dit, mais oui, d'où venez-vous? Écoutez, je ne pense pas qu'il faille faire les choses comme c'était exactement dans l'ancien temps. Là, ils apportaient des fruits, des légumes, etc. Mais ça a été remplacé aujourd'hui par des moyens monétaires, des moyens modernes, de l'argent, etc. Mais Dieu emploie encore les mêmes moyens. Veut encore que la dîme, que les offrandes venant des enfants de Dieu, que ce soit ça qui soutienne le ministère. Qu'est-ce qui va soutenir le ministère? Le gouvernement? Non. Qui d'autre? C'est dans l'Église. Moi, je persiste, je dis, Dieu emploie encore les mêmes méthodes, les mêmes moyens pour pousser l'Église à supporter l'œuvre de Dieu. Là, nous parlons du serviteur, mais c'est l'œuvre de Dieu en général. Ce n'est pas seulement l'homme, l'individu, parce qu'on pourrait réduire ça vraiment. Non, ce n'est pas ça. Et juste que vous sachiez que celui qui est fidèle, justement, en matière du donner, il est capable de se priver de son argent. Celui qui est capable de dire, je me prive de mon argent, lui donne la meilleure preuve de son amour pour le Seigneur. C'est une des meilleures preuves qu'on aime le Seigneur. Tu aimes le Seigneur, tu aimes son œuvre. Tu aimes le Seigneur, tu aimes ses envoyés. Tu aimes le Seigneur, tu aimes ses serviteurs. Tu aimes le Seigneur, tu aimes l'Église. C'est pour l'Église que tu donnes, parce que tu aimes le Seigneur, pas parce que tu aimes le pasteur. Il est beau, il n'est pas beau, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ça. C'est quand on aime le Seigneur que l'on donne pour l'avancement du royaume. Et c'est ça, c'est pour ça qu'il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a eu des abus. Je suis conscient qu'il y a des gens qui ont abusé, qui ont vraiment pressé le citron, et qui se sont servis peut-être des versets à tort et à travers pour exiger qu'on renfloue les caisses et dans la poche de... Ce n'est pas parce que les individus ont abusé d'une situation que l'on dit que ce n'est plus bon. Ce que le Seigneur a ordonné demeure. Ça demeure. Ceux qui abusent auront des comptes à rendre. Ceux qui abusent auront des comptes à rendre, qui n'auront pas été honnêtes dans le ministère que le Seigneur leur a confié. Ils auront des comptes à rendre. Ça, on ne le sait pas toujours, de tous côtés, du côté des serviteurs comme du côté des autres. On dit, ben, je vais d'abord prendre, ensuite on verra. Ensuite, quand? Je ne sais pas si cette nuit tu vas... Il y a un homme de Dieu, quelqu'un de très connu, Miles Monroe, je ne sais pas s'il y a des gens qui le connaissent, qui est un grand conférencier, un homme qui fait des conférences, ça coûte excessivement cher pour accéder à ces conférences. Il vient de mourir, là. Il vient de mourir, je ne sais pas d'où il venait. Il a son avion personnel avec 9 personnes. L'avion à peine arrive pour une conférence qui devait commencer le 11. Le 10, dimanche le 10, il atterrit. L'avion cogne, percute une grue, prend feu. Mort, lui, sa femme, son enfant de 6 ans et d'autres serviteurs, dont un pasteur jeunesse et d'autres personnes qui étaient dans l'avion. On ne maîtrise rien, on ne contrôle rien, on ne doit rien reporter au lendemain. Bien aimé, ce qu'on peut régler dans la vie, réglons-le. 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 Amen. Amen. On va aller au verset 15. Pour moi, Paul, je n'ai usé d'aucun de ces droits et ce n'est pas afin de les réclamer à ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir, c'est dur les propos qu'il tient ici, j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? Il dit que c'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Il confirme encore qu'il renonce volontairement à ses droits. Vraiment volontairement qu'il renonce à ses droits, probablement à cause de toutes ces attaques dont nous avons parlé, qu'il avait de la part des gens de Corinthe, etc. Encore une fois, c'est toujours difficile de savoir ce qui s'est passé, puisqu'on n'a pas les lettres qu'on avait envoyées. Mais on sait cependant que, on l'a dit tantôt, que Paul a pourtant accepté d'autres églises des dons. Je vous disais dans Philippiens chapitre 4, Philippiens chapitre 4, à partir du verset 10, Paul exprime sa reconnaissance en disant ceci, Philippiens 4, 10, il dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Mais ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. » D'où il est reconnaissant. Il est reconnaissant, il dit, mais Dieu merci que vous ayez eu à cœur. Si vous ne l'aviez pas fait, moi je sais vivre quand même dans le dénuement, je sais vivre dans l'humiliation comme je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Il vivait une détresse. Il n'a pas crié en disant, hé, les gens de Philippe, envoyez-moi des sous. Je vais mourir de faim. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre, je sais être rassasié, je sais avoir faim. J'ai supporté tout cela. Mais vous avez bien fait. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait et vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Et c'est vraiment, je trouve ça profond ce qu'il dit ici. Je vais continuer au verset 15, même jusqu'au verset 20, il continue dans le même sens. « Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi. » Donc aucune ne s'est préoccupée de moi pour ce qu'elle donnait et recevait. « Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà, quand j'étais à Thessalonique, à deux reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, pas en train de pousser les gens, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Il y a plus de bonheur, il y a plus de joie à donner, à recevoir. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Donc, il a accepté malgré cela des dons venant d'autres églises et il en est reconnaissant. Il a accepté les dons pour que les gens soient enseignés, pour que les gens soient enseignés et qu'en donnant pour l'avancement du royaume, il y a une bénédiction qui s'ensuit. Il y a un trésor que l'on se constitue, là où la Bible dit, là où il n'y a pas de teigne, il n'y a pas de rouille. C'est un fonds que vous vous constituez là-bas qui va être productif, qui va vous donner des dividendes pour l'éternité. Amen. Pas des dividendes qui vont fluctuer selon la volonté des gens de la bourse, mais des dividendes pour l'éternité. Donc c'est la bonne place. En donnant, en supportant l'œuvre de Dieu, en supportant la sévérité de Dieu, vous déposez votre argent dans un compte bancaire au ciel, à l'abri de toutes ces fluctuations et des dividendes éternels vous attendent. Amen. Alors il n'écrit pas donc, dit-il, pour, je n'écris pas, ce n'est pas en ma faveur que j'écris, au verset 15, il dit, je n'écris pas pour réclamer l'argent à ma faveur, ce n'est pas pour ça que j'écris, Au contraire, comme vous allez le voir, il dit « j'aimerais mieux mourir ». C'est vraiment des mots très très forts ici, parce qu'il ne veut pas que personne croie qu'il se sent, qu'il se sert plutôt de son ministère pour se faire de l'argent. Il veut que ça sorte de la tête des gens. Je ne me sers vraiment pas de mon ministère. Même quand je l'écris, c'est pour vous. C'est pour que vous puissiez bénéficier des retombées que cela réserve aux enfants de Dieu. Mais ce n'est pas du tout pour mon ministère, pour que je puisse avoir plus d'argent que j'ai écrit. Il dit aussi, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Ce n'est pas par orgueil qu'il le fait. Il annonce l'évangile, il n'annonce pas par orgueil parce que lui sait parler mieux que d'autres, parce que lui est éloquent, parce que si... Non, il dit qu'il le fait par nécessité. La nécessité m'en est imposée. Quand il a été appelé, Jésus a dit que celui-ci est un instrument de choix entre mes mains. Et je lui montrerai combien il va souffrir pour moi. C'est par nécessité. Ce n'est pas lui qui a choisi de devenir prédicateur. Dieu le lui impose. Car il a été appelé indépendamment de sa volonté. Ce n'est pas comme nous, pas comme beaucoup de têtes de serviteurs de Dieu. Il y a des gens qui pouvaient dire non. Mais ici, lui, c'était impossible. Dit. Aveuglé, dit, tu t'arrêtes là dans tout ce que tu es en train de faire là. À partir de maintenant, ta mission change. C'est une nécessité qui lui a été imposée. Dieu le lui impose parce qu'il a été appelé indépendamment de sa volonté. Il n'a pas le choix que de prêcher l'évangile. Il ne le prêche pas pour lui, pas pour sa gloire. Il n'a pas de choix au risque de trahir l'amour de Christ pour lui. Il dit, je n'ai pas de choix. Il dit, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. La nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi. Donc, malheur à moi, ça veut dire, je n'ai pas de choix si je n'annonce pas l'évangile. Si je n'annonce pas l'évangile, je trahis celui qui m'a sorti des ténèbres. Je trahis celui qui m'a amené à l'agréable lumière des enfants de Dieu. Je trahis celui qui m'a sauvé. Je trahis celui qui m'a aimé. Qui m'a aimé. Amen. Donc, il dit, je n'ai pas le choix au risque de trahir. Donc, malheur à moi si je n'annonce pas donc, l'évangile. Donc, lui dit qu'il le fait de bon cœur, évidemment, parce qu'il offre gratuitement l'évangile et c'est ça sa récompense. Le fait qu'il le fait de bon cœur, c'est vraiment ça sa récompense. Il dit, si je le fais de bon cœur, c'est ça ma récompense, j'en ai la récompense. Et si je le fais malgré moi, ben, c'est une charge qui m'est confiée. Et donc, quelle est donc ma récompense? Sa récompense, dit-il, c'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur. Il ne le renie pas. Il continue à dire qu'il a le droit en tant que prédicateur de le faire, mais il dit, je n'use pas de ça. Il dit, ma récompense à moi, Paul, c'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. Amen. Maintenant, l'appel de Paul n'est pas l'appel de Pierre. L'appel de Pierre n'est pas l'appel de Jacques. L'appel de Jacques n'est pas l'appel de quelqu'un d'autre. Amen. Dieu nous appelle chacun pour un ministère particulier et il nous appelle à passer par une voie qui est particulière à chacun. Alors ne comparons pas les ministères. Lui fait ça, je vais faire ça. Lui a demandé l'argent, Non. Amen. Cas par cas. Il y a un appel particulier à chacun. Amen, amen. La partie 19, le verset 19 jusqu'au verset 23, il montre quel est l'usage approprié que l'on doit faire de la liberté chrétienne. Alors, il dit ceci. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les juifs, j'ai été comme juif, afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans loi, ça veut dire les païens, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Il veut dire, au verset 19, c'est qu'un chrétien doit savoir qu'il n'est assujetti à personne. Nous ne sommes pas, comme disait quelqu'un, les objets ou qui disait ça à un moment donné. Nous ne sommes pas les objets des pasteurs qui vont manipuler comme ils veulent ou des choses comme ça. Un chrétien doit savoir qu'il n'est assujetti à personne. Vous n'êtes pas assujetti au pasteur. Nous sommes assujettis à Dieu. C'est lui notre maître. Amen. Mais nous sommes ensemble co-ouvriers pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Chacun avec une mission bien particulière, avec un mandat qui lui est propre. Donc, personne n'est assujetti à l'autre dans l'œuvre de Dieu. Le chrétien doit aussi savoir qu'il doit être au service de tous, tout en étant assujetti à personne. C'est ce qu'il dit. Je suis libre à l'égard de tous. Je suis assujetti à personne, bien que je me sois rendu le serviteur de tous. Donc, nous devons être au service de tous. Et le bel exemple, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ est venu servir et sauver. Amen. Il est venu servir. Donc, nous aussi, nous sommes appelés à servir pour gagner le plus grand nombre de gens. Ça prend qu'on serve. Pour gagner, il faut servir. Amen. Nous allons le voir. Donc, pour bien évangéliser, en termes clairs, il va y avoir une attitude que l'on doit adopter. Il doit nous permettre de concilier à la fois notre liberté et notre responsabilité. Il y a deux choses. Nous avons notre liberté, mais nous avons aussi une responsabilité de les gagner, de gagner tous ceux qui sont encore perdus, de gagner tous ceux qui sont encore dans les ténèbres. Nous avons cette responsabilité. Alors, en allant évangéliser, il faut que nous ayons présent à l'esprit ces choses-là. Je ne veux pas faire des choses n'importe comment. Parfois, je vais me priver de mes droits, je vais me priver de mes libertés pourvu que je gagne des gens à Christ. Et c'est ce qu'il dit. Paul montre donc combien il était flexible au verset 20 et 21. Avec les Juifs, il agissait comme les Juifs. Avec les païens, il agissait comme les païens, avec ceux qui sont sans loi. Avec ceux qui sont sous la loi, il agissait comme pour les gagner à Christ. Il se rabaissait à leur niveau. Il était flexible, il était souple dans son approche. Il faisait des choses peut-être que d'autres personnes pouvaient critiquer. Mais lui, il ne le faisait pas pour gagner la sympathie des gens, il le faisait pour les gagner à Christ, les gagner à l'Évangile. Il était poussé par l'amour des perdus. Quand tu es poussé par l'amour des perdus, tu dois te priver de tes droits. Tu dois te priver de ton sommeil. On va te critiquer. Qu'est-ce qu'il fait? Avec les Juifs, il s'est comporté comme eux. Il a pris certaines habitudes culturelles et sociales sans être lié à leurs croyances. Juste pour s'asseoir avec eux. Juste pour s'approcher d'eux. S'il dit que nous, si tu veux parler, tu veux nous parler, tu dois porter un foulard sur la tête, Paul était prêt à le faire. Es-tu prêt à le faire aujourd'hui? Si tu arrives dans une maison de musulmans ou je ne sais pas quoi, de n'importe quel... Ils te disent, mais ici, pour entrer chez nous, on enlève les souliers. Tu te dis, c'est quoi cette affaire? Mais qu'est-ce qui t'amène là-bas? C'est l'amour des perdus? Oui. Enlever les souliers, ça t'enlève ton salut? Non. C'est cela. Avec les Juifs, il adoptait leurs habitudes culturelles et sociales sans être lié à leurs croyances. Avec les sous la loi, en sachant que le salut ne dépend pas de tous ces gestes qu'il va faire. Le salut ne dépend pas de cela. Avec les païens, il le fait, mais il faut le faire jusqu'à une certaine limite. Paul ne peut pas tout faire. Donc, il faut le faire sans aller jusqu'à violer la loi de Dieu, la loi morale de Dieu. Amen. Donc, il faut être intelligent en même temps, mais il y a des choses qui ne t'affectent nullement. Tu restes simplement, tant que tu restes soumis à la loi de ton Seigneur, c'est bon. Et il y a un exemple qui nous parle, qui nous parle bien, c'est la question de la circoncision. Vous savez, quand nous lisons dans Actes des Apôtres, lui, il a montré, nous l'avons étudié, quand nous avons étudié Romains et tout ça, que la circoncision n'est rien. C'était un rite qui était fait par eux, etc., par les Juifs, mais qui croyaient par eux que c'est ça qui les faisait entrer dans la famille. Il dit non, la circoncision, ce n'est pas ça qui vous amène au salut. La preuve, Actes 16, le verset 3, il dit ceci, donc 16. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit. Lui qui prêche la non-circoncision, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Pour ne pas bloquer la route du travail de Dieu, pour ne pas bloquer la route à Timothée qui est appelé à travailler dans ce milieu là-bas, il dit, mais mon frère, on va te circoncire. Il a circoncis Timothée pour éviter une offense inutile. C'est une offense inutile envers les Juifs, parce que c'est vers eux que lui, Timothée, était envoyé, était appelé à travailler comme missionnaire. Veux-tu lui donner une chance de rencontrer ces gens et de ne pas être bloqué chaque fois qu'il dit, non, lui, il n'est pas comme nous, il n'est pas circoncis, donc, etc. Ce n'est pas ça qui importe. Il dit, il a été obligé de les circoncire pour avoir la porte ouverte à Timothée. Il dit, Timothée, la porte est ouverte. Maintenant, tu peux aller travailler. Ils vont t'accueillir, ils ne vont pas te repousser en disant, non, lui n'a pas fait ce rite. Au contraire, il a résisté, par contre. Quand il s'agissait de quelqu'un d'autre. Galates, chapitre 2, 14 ans après, verset 1er, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Verset 3. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, comme Timothée, nous venons de voir, était de père grec. Tite aussi était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncis. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Donc il y avait des faux frères qui commençaient à pousser les gens des Galates, les Galates en disant non, il faut circoncire. Non, là il n'a pas été obligé de circoncire Tite. Il n'a pas été obligé de le circoncire, au contraire de ce qu'il a fait avec Timothée, et tout ça pour ne pas compromettre la liberté donc de l'évangile parmi les gentils. La pression venait de tous ces judaïsants qui venaient à Galatie là-bas pour chercher à faire croire aux gens que non, il faut les circoncire. Non, c'est une pression qui venait de ces judaïsants et lui ne peut pas se soumettre à cela. Amen. Donc, souplesse dans ce qu'il faisait. Le verset 22 dans notre texte du jour, chapitre 1, « J'ai été faible avec les faibles. Afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Paul veut dire que donc, sans compromettre son message, sans compromettre la vérité du message qu'il a porté de la parole de Dieu, il a accepté de s'abaisser pour aider évidemment ses auditeurs et les conduire au salut. J'ai été faible avec les faibles. Je suis allé à leur niveau pour qu'on parle le même langage, sans compromettre la vérité de l'évangile, sans se mouiller, sans etc. Donc, c'est la même chose que nous devrions faire nous aussi en évangélisant. C'est un exemple qui est donné ici, qui est frappant. Je disais, vous arrivez quelque part, on vous dit, ici chez nous, on enlève les souliers, mais il y a d'autres exemples qu'on donne ici. Vous allez quelque part, on vous dit, mais nous ici, on mange la viande halal. Halal. Vous savez, la viande qu'on la vend au marché, enfin, dans les supermarchés. Ils disent, moi, je ne peux pas manger la viande halal. Mais ça te fait quoi de manger la viande halal? Rien du tout. Tu peux bloquer l'entrée dans une famille parce que tu veux juste t'opposer à dire, ah non, la viande halal, tu as des croyances. Non, nous avons vu la semaine passée que ce n'est pas les aliments, c'est rien. Ce n'est pas ça qui doit nous bloquer, amen. Et nous pouvons tous sanctifier en nous, par la puissance de notre Seigneur, alléluia. Donc manger la viande halal ne devrait pas nous bloquer. Porter le voile en disant, ce n'est pas de ma culture. Moi, j'apprécie, les gens du monde sont plus sages parfois que les enfants de Dieu. Regardez les journalistes qui vont dans les pays où on exige aux femmes de porter le voile. S'ils veulent avoir l'information, s'ils veulent aller à la source, s'ils veulent aller voir sur le terrain ce qui se passe, tu ne vas pas aller en disant, moi je suis occidental, je viens, on va te renvoyer, tu n'auras pas ce que tu cherches. Elles portent le voile, quand elles quittent le terrain de mission, reviennent, normal, comme toute autre personne. C'est juste pour avoir accès à ce qu'ils recherchent, l'information, aller voir sur le terrain. Quand ils voient que vous êtes habillé comme eux, ils vous acceptent plus facilement. Et vous pouvez passer votre message, vous pouvez aller chercher l'information que vous voulez avoir. Amen. Donc, c'est des exemples, justement, que l'on donne. Lui dit qu'il fait tout pour avoir gagné, pour avoir accès, pour gagner, évidemment, le cœur de toutes ces personnes. C'est ça qu'il dit. Je fais tout à cause de l'Évangile. À cause de l'Évangile. L'Évangile va vous pousser à faire des choses qui sont contraires à vos convictions ou à vos habitudes, sans que cela ne compromette, amen, le message que Dieu veut que nous puissions porter. Donc, il fait tout pour avoir part aux bénédictions que l'Évangile apporte. Quand tu annonces l'évangile, il y a des bénédictions qui accompagnent. Amen. Quand tu gagnes des âmes à Christ, il y a des bénédictions qui accompagnent. Alors, je ne vais pas me priver de ça. En tout cas, je ferai tout ce qu'il faut pour que je puisse accéder à ces occasions qui nous sont offertes. Et on arrive vers la fin donc, du chapitre 9. On va lire les versets 24 jusqu'à la fin. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Mettez toutes les chances de votre côté. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. C'est une couronne qui va sécher quelques jours après. C'est une couronne qui va faner quelques temps après. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Il termine en insistant sur l'importance de l'autodiscipline qui est requise dans la vie des serviteurs de Dieu. Pour l'avoir manqué, beaucoup sont tombés. Pour l'avoir manqué, pour l'avoir négligé, beaucoup ont arrêté en cours de route. Pour l'avoir manqué, beaucoup Je ne sais pas, ils se sont détournés de, peut-être des voies que, vers lesquelles le Seigneur les avait appelés. Paul termine donc en montrant que tout ce qu'il dit n'est pas facile. C'est pour ça qu'il parle d'un combat. La vie est un combat. Je crois que je le disais dimanche passé. La vie est un combat. La vie chrétienne encore plus. C'est un combat dans lequel il faut beaucoup, beaucoup de discipline, comme chez les athlètes. Si vous lisez la plupart des épîtres de Paul, il fait beaucoup, beaucoup référence aux athlètes. Parce que la ville de Corinthe était une ville connue pour ses jeux. C'est des jeux, on les appelle quoi, des jeux ismiques à cause de l'isthme de Corinthe. L'isthme, c'est une bande de terrain qui relie deux territoires. Hein. C'est une bande de terrain, ça s'appelle l'isthme. Donc, il y avait des jeux qui se faisaient dans l'isthme de Corinthe qui sont, on dirait, l'équivalent des Jeux olympiques actuels, on va dire. C'était des jeux très importants qui se faisaient tous les deux ou tous les trois ans. Donc, il parle de ça parce que quand tu parles des athlètes à Corinthe, là, les gens comprennent vite le message, ils comprennent ce que tu veux dire. Il se sert donc des exemples que les Corinthiens comprennent facilement à cause de ces jeux. Et comme des athlètes, les serviteurs de Dieu, qui sont appelés à propager la bonne nouvelle de l'Évangile, donc doivent courir pour remporter. Pas courir juste pour faire partie du peloton, faut courir pour remporter. Et si vous voulez remporter, il faut courir avec détermination. Il faut courir sans hésiter. Il faut courir sans paresse. Le travail des serviteurs de Dieu, ce n'est pas la course à pied. Là. C'est vraiment pas la course à pied, mais c'est juste une image que l'on donne. On travaille parce qu'on veut arriver quelque part, mais tu ne peux pas mettre de la paresse là-dedans. Si tu mets la paresse dans la préparation de tes messages, tu ne vas pas édifier les gens. Si tu ne mets pas l'énergie qu'il faut pour préparer tes messages, tu ne vas pas toucher le cœur des gens. Tu ne vas pas impacter l'assemblée dans laquelle le Seigneur t'a donné. Donc, il faut courir pour remporter, sans hésiter, faire tout pour gagner des âmes, pour édifier et pour impacter des vies. La paresse ne doit pas se retrouver dans la vie d'un serviteur de Dieu, selon Paul. Ils doivent courir comme des athlètes. Les champions, c'est des gens qui se sont toujours fait beaucoup, beaucoup de violence. Et il parle aussi de la même chose, que les serviteurs de Dieu doivent s'imposer toute espèce d'abstinence. Ça revient à ce qu'on disait dimanche dernier, cultiver la maîtrise de soi. Je m'abstiens des choses pour que mon corps soit en forme. Tout ce qui peut affecter mon physique, et tout ce qui peut affecter mon ministère, je vais veiller à cela. Donc la maîtrise de soi joue un rôle, est une clé essentielle là-dedans. Donc ce que les serviteurs doivent savoir, ils ne doivent pas courir à l'aventure non plus. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, mais je cours non pas comme à l'aventure, non. Sans savoir dans quelle direction je vais. Je frappe comme battant de l'air, je donne des coups de poing à l'air. Non, mais tu ne vas pas atteindre ton objectif, ton vis-à-vis. Donc il faut savoir viser, mais savoir que nous avons un ennemi en face. Tu ne donnes pas des coups en l'air comme ça. Mais où est ton ennemi? Il est en face de toi? Il est là ou il est là? Il faut savoir où il est et viser à la bonne place. Amen. Il faut savoir qu'il y a quelqu'un contre lequel on se bat. On ne prêche pas l'évangile juste pour le plaisir. C'est beau, c'est riche. Mais cet évangile, c'est une arme. La parole de Dieu, c'est une arme, comme nous avons dit en début de réunion, c'est une arme. Quand on prêche, c'est pour que les gens se servent de cette arme pour se battre contre un ennemi. Ce n'est pas en l'air, ce n'est pas n'importe comment qu'on travaille. On sait qu'il y a un ennemi en face et il faut donc cibler cet ennemi. Il doit traiter également durement son corps. Parce que le corps, c'est véritablement le champ de bataille où l'ennemi vient nous chercher pour nous faire tomber. La tentation, ça va venir peut-être à partir des idées, mais ça se manifeste. Finit toujours par se manifester à travers les membres, des pieds qui courent vers le mal, une langue qui dit n'importe quoi, les yeux qui regardent n'importe quoi. Ça part des idées, mais ça finit par se concrétiser dans les membres, dans le corps. Donc c'est vraiment le champ de bataille. C'est là que l'ennemi vient chercher. C'est là qu'il a fait tomber beaucoup de serviteurs de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu. Des gens respectés, des gens qui ont eu un impact à cause d'une faiblesse. À un moment donné, la tentation est venue, a pris le dessus, et c'est tout un ministère qui s'écroule avec des gens qui étaient derrière. Il peut nous freiner dans la mission. L'ennemi peut nous freiner dans la mission de gagner les âmes, et donc il a un impact sur les serviteurs de Dieu qui chutent beaucoup dans les églises, justement, parce qu'ils n'ont peut-être pas traité durement leur corps. Ils n'ont pas fait attention, justement, à tout ce que Paul est en train de dire. Donc, pour dire en terminant que la discipline est vraiment quelque chose d'indispensable aux serviteurs de Dieu, aux chrétiens aussi. Nous sommes tous serviteurs à différents niveaux, avec des mandats différents. La discipline dans la vie chrétienne, c'est quelque chose de capital. Pourquoi? Il dit, pour ne pas être désapprouvé. Il n'y a rien de plus triste qu'après avoir prêché l'évangile aux gens. Tous ceux à qui tu as prêché, un jour se retrouvent au ciel, et toi, tu manques le bateau. Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Donc, nous travaillons pour que le peuple aille au ciel, fasse ce que le Dieu attend, mais nous-mêmes, nous devons faire attention à nous-mêmes. C'est pour ça que j'appelle toujours l'Église, je dis, les serviteurs de Dieu, ça va être toujours la cible de l'ennemi, mais l'Église a l'obligation de prier, de couvrir les serviteurs de Dieu par les prières, par les prières. C'est vraiment important, c'est important. Plusieurs, on sait que beaucoup ont bien commencé, mais ce qui importe, c'est la fin de toute chose. Bien commencé et bien terminé. Et Paul a cité des cas, je vous passe parce qu'il est temps, le cas de Hyménée d'Alexandre qui se sont opposés à lui. Ils avaient bien commencé avec lui, mais il est en train de déplorer tout ça quand il écrit à son fils Timothée, il dit « Ils m'ont fait beaucoup de mal. Ces gens m'ont fait beaucoup de mal. On a bien commencé avec eux, ils m'ont fait beaucoup de mal. » Il dit que je les ai livrés au diable, je les ai excommuniés, je les ai sortis de la présence du peuple pour qu'ils ne puissent pas continuer à impacter les autres croyants. C'est le cas aussi de Démas qui a déserté. À cause de quoi? À cause de l'amour du siècle présent. Les choses qu'on voit, les biens matériels qui nous attirent, les si, les plaisirs, etc. Beaucoup vont lâcher, beaucoup sont tombés à cause de ces choses. Amen, amen.